Hello, bienvenue dans Boost à recherche d'emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneuse sociale. Boost à recherche d'emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation, ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Pour ce nouvel épisode, je reçois Thomas, diplômé de chimie ParisTech, ingénieur développement produit chez L'Oréal. Hello Thomas.
Salut Vanessa, ça va bien?
Oui, très bien, merci. Et toi?
Très très bien, merci beaucoup.
Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Avant de commencer, je te propose d'organiser notre échange en trois temps. Premièrement, je te laisserai te présenter. Ensuite, nous discuterons des difficultés que tu as rencontrées, des stratégies que tu as mises en place pour intégrer le milieu professionnel. Enfin, nous ferons un petit focus sur ton poste actuel afin d'en savoir un peu plus. Ça te convient?
Pas de souci, très clair.
C'est parti. Alors Thomas, qui es-tu?
Grande question. Alors, j'ai fait un parcours scientifique assez classique. Donc, le bac scientifique, même si je crois que maintenant il n'existe plus. ensuite, j'ai intégré les classes préparatoires aux grandes écoles, dans la filière physique-chimie, pour ensuite intégrer une école d'ingénieurs. Donc, j'ai intégré Chimie ParisTech. Donc, c'est l'école d'ingénieurs chimistes, une des écoles d'ingénieurs chimistes de France. Et en fait, du coup, pendant ces années à Chimie ParisTech, j'ai appris les différentes disciplines de chimie pour devenir ingénieur chimiste. J'ai eu aussi différents stages que je pourrais expliciter plus tard. Et en dernière année d'école, j'ai décidé de faire un double diplôme à l'étranger. Et à la suite de ça, ensuite, je suis rentré directement dans le monde du travail.
Bravo, quel beau parcours. J'imagine qu'il faut beaucoup d'abnégation, de travail pour en arriver là. Effectivement, tu nous donneras plus de détails dans les prochaines minutes. J'aimerais te demander pourquoi tu as choisi la chimie comme spécialité.
Alors, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps intéressé par les phénomènes autour de moi, donc des phénomènes physiques ou chimiques autour de moi. Et en fait, par exemple, je me rappelle, mon père, il m'expliquait le phénomène de condensation et de pluie avec genre une assiette froide que tu mets au-dessus de la casserole de pâte. Et en fait, à chaque fois, j'étais totalement bluffé. Donc, du coup, je me suis dit, bah, moi, je vais faire de la science et tout. Et la chimie, je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est toute la science des mélanges, comment créer des nouvelles molécules à partir de deux molécules différentes. Donc, je me suis dit, j'aimerais creuser cette partie de la science. Donc, du coup, j'ai choisi la chimie.
D'accord. Donc, en fait, c'est une passion que tu nourris depuis très longtemps.
Tout à fait.
Ensuite, j'ai noté que tu as complété ton diplôme d'ingé par un master spé en chimie. Pourquoi ce choix?
Alors, ouais, en fait, du coup, quand j'étais à Chimie ParisTech, donc c'est une formation en 3 ans, au cours de la deuxième année, pendant le stage, je me suis dit que, c'était un stage à l'étranger, en Australie, et je me suis dit que j'aimerais finir, faire ma troisième année à l'étranger aussi, parce que j'ai complètement adoré le fait de vivre à l'étranger. Et par ailleurs, je voulais aussi avoir une partie d'éducation en dehors de la France, en dehors de Paris, pour voir quelque chose d'autre et aussi me confronter à d'autres types d'enseignements. Donc du coup, je suis allé à l'université de Cambridge, en fait, pour justement suivre un master de biotechnologie. avec aussi quelques modules de management, pour voir aussi d'autres matières que je ne voyais pas forcément en chimie ParisTech. Donc voilà, c'était à la fois la curiosité scientifique de voir d'autres modules de chimie plus orientés santé, mais aussi se confronter à le système anglo-saxon, d'autres cultures, rencontrer d'autres personnes. Donc voilà, c'était un grand mix une envie d'aventure, je dirais.
C'est très clair, effectivement, hein, c'est ce que je recommande aussi quand je discute avec des personnes qui sont soit en études et enfin je leur recommande toujours d'avoir une expérience à l'international parce que ça nous ouvre beaucoup de portes et vraiment beaucoup d'opportunités. J'aimerais qu'on revienne sur les admissions, que ce soit à Chimie ParisTech et à Cambridge. Comment tu t'y es pris pour
Alors,
rentrer dans cette école-là?
ouais. Pour Chimie ParisTech, comme alors, il y a plusieurs types d'entrées, hein. Moi, je suis rentré sur concours. Donc, tu passes 2 années, 2 ou 3 années en classe préparatoire pour préparer les concours. Tu passes les concours avec des examens écrits et oraux dans différentes matières, donc maths, physique, chimie, mais aussi français, philo, voilà. Et ensuite, selon ton classement, tu choisis l'école que tu veux rentrer. Alors, je ne détaillerai pas trop parce que c'est assez, enfin, on va dire, c'est assez classique. Par contre, pour l'entrée, enfin, l'admission à Cambridge, comme on va dire la plupart des universités étrangères, tu dois faire un dossier où tu décris tes motivations, tu vas donner tes bulletins scolaires, tes lettres de recommandation, tout ça, tout ça. Ça peut paraître facile, mais en fait, c'est si tu vas dans un pays étranger, c'est dans une langue étrangère, donc ça ajoute un obstacle. Et c'est surtout qu'il faut arriver à te vendre dans la manière où comment dire, les gens du pays où tu vas se vendent. Donc, par exemple, en Angleterre et aux États-Unis, c'est des cultures où ils savent très très bien se vendre et mettre en avant leurs qualités, leurs expériences. Donc, pour postuler à Cambridge, par exemple, j'ai dû faire un travail d'introspection sur moi et voir un peu quelles sont les différentes phases de ma vie que j'aimerais mettre en avant, ou mes différentes qualités, mes différentes aspérités de personnalité, on va dire, pour pouvoir monter un dossier pour Cambridge.
C'est très clair. Donc, en fait, tu as dû identifier quels étaient tes points forts, tes points faibles, quelles étaient tes aspirations.
Tout à fait. Et raconter une histoire. En fait, je pense que c'est ça qui est assez différent entre quand tu postules, on va dire, en France, que ce soit pour une école ou pour un job, ou dans les pays anglo-saxons, type Angleterre, par exemple, même les États-Unis. Je pense qu'en France, on est assez carré et assez concret. Et voilà, on arrive, on dit, voilà, j'ai fait cette école, ou bien j'ai eu cette expérience professionnelle, donc je pense que je suis apte à XXX. Alors qu'en fait, pour postuler à des universités américaines, anglaises, ou même des jobs là-bas, faut vraiment être assez bon à raconter une histoire. Et donc voilà, commencer par, je sais pas, quand j'étais petit, j'ai n'importe quoi, mais quand j'étais petit, au parc, personne ne voulait jouer avec moi, mais ensuite du coup j'ai dû faire l'effort d'aller vers les autres et leur proposer de jouer à ce nouveau jeu que j'avais créé. Cela m'a, je sais pas moi, cela m'a appris le collaboratif ou le contact humain et tout. Donc voilà, il y a toujours ce travail de storytelling à faire. Je pense, en tout cas aux États-Unis et en Angleterre, mais c'est voilà, faut toujours voir en fonction de où on postule quelle est la meilleure méthode de communication.
Très bien. Tout à l'heure, tu disais qu'un des challenges également, c'était la langue. Étais-tu déjà bilingue quand t'as postulé à Cambridge ou as-tu fait des formations spécifiques du coup pour te mettre à niveau en anglais?
Non, alors j'étais pas bilingue, enfin je le suis toujours pas, hein, je pense, mais j'ai fait un stage de 5 mois en Australie, juste avant Cambridge, et j'avoue qu'être en immersion dans un pays anglophone m'a beaucoup beaucoup aidé, et ça met en confiance, ça délie la langue et tout, donc c'est pas mal, c'est très très bien même.
Ok, et tu as commencé à l'évoquer, du coup pour toi, quels sont les avantages versus les inconvénients du système anglo-saxon et du système francophone ?
Alors, après, là c'est mon avis totalement perso, hein, mais je pense que en France, on va être très très bon à apprendre toutes les connaissances dures, que je dirais, les sciences dures, donc la rigueur mathématique, les connaissances de chimie, voilà, tous les trucs que j'appelle la théorie pure et dure. Après, je trouve que là où l'université de Cambridge, donc où j'étais, était plus forte que mon école d'ingénieur en France, c'est toute la partie développement des soft skills, donc les compétences, on va dire, plus douce, comme savoir parler, savoir se vendre, savoir passer un entretien, écrire une note de motivation, négocier. Donc voilà, après je pense que c'était bien, du coup j'étais content d'avoir eu ces deux types d'éducation. Mais voilà, ça je pense que c'est un peu mon point de vue, on va dire, sur la différence entre les deux systèmes éducatifs.
C'est très clair et j'aimerais juste rajouter qu'effectivement aujourd'hui c'est vraiment les soft skills qui font la différence, tu vois, au-delà des compétences et des connaissances dures comme tu le rappelles. Aujourd'hui ce qui nous fait nous démarquer finalement, c'est vraiment ces soft skills.
Tout à fait, et je pense que les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce et les universités françaises ont totalement compris le truc, parce que de plus en plus les formations maintenant intègrent des modules de management, de négociation, de communication, donc ça c'est super bien, et je pense que on est, enfin, en tout cas en France, sur la bonne voie.
Exactement. Thomas, à présent, j'aimerais bien qu'on parle de finances.
D'accord.
Parce que tu vois, ça permet d'avoir une vision plus approfondie et aussi ça permet de savoir ce que ça implique de choisir telle ou telle école. Ouais. Donc, je te demanderais combien ça t'a coûté d'effectuer Chimie Paris et ton master spécialisé en Angleterre.
Ouais. Alors, Chimie Paris Tech étant une école publique, une école d'ingénieurs publique en France, je pense que c'était autour de 1000 euros par an, donc c'était quelque chose qui n'était pas une très grande somme par rapport à ce qu'on peut voir par exemple à Cambridge ou dans les universités américaines. Donc ça, en fait, c'était totalement, enfin pour moi en tout cas à l'époque, c'était finançable par les moyens perso, en fait. Par contre, dès qu'on vise un peu les universités à l'étranger, en particulier en Angleterre ou aux États-Unis, là ça peut monter jusqu'à, je dirais, oui, 20 000, 50 000 euros l'année, quoi. Et donc, du coup, pour Cambridge, c'était le cas, on était vers les 30 000 euros l'année, je pense. Et c'est vrai qu'en fait, au début, moi, mon envie, c'était juste de faire un double diplôme à l'étranger. Et en fait, quoi qu'il arrive, en fait, je n'étais pas trop intéressé à la partie financière, à l'aspect financier. Je voulais juste partir à l'étranger, kiffer, vivre mon aventure, en fait. Donc, j'ai pas pensé à l'aspect financier, j'ai pensé que après. Et en fait, j'ai eu la chance d'être sponsorisé, on va dire, par l'université Paris Sciences et Lettres, qui m'a donné une bourse de 20 000 euros. Donc après un dossier, hein, et tout. Et donc du coup, en fait, j'ai pu financer mes études en Angleterre grâce à la bourse. Et je pense que le key message que j'aimerais faire passer, c'est que, si jamais, enfin, t'as envie de faire un truc, alors ok, l'argent c'est important et tout, mais j'irais concentre-toi d'abord sur qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer, qu'est-ce qui fait que tu veux partir à l'étranger et tout, et en fait l'aspect financier, tu vas toujours réussir à le régler, d'une manière ou d'une autre.
Tout à fait, je partage complètement ton avis. Hein. Enfin, moi, je dis toujours, l'argent, c'est vrai, c'est un facteur important, c'est une donnée non négligeable, mais vraiment, ça ne devrait pas vous limiter. Donc vraiment, comme tu le rappelles à juste titre, déjà se concentrer sur son projet pour le définir, il y a toujours une solution, on trouve toujours les moyens.
Tout à fait. Et quelque chose où je ne savais pas du tout, c'est qu'il y a plein d'aides et plein de bourses dont on n'est même pas au courant. En fait, il suffit juste de faire des recherches sur Internet ou de demander à différentes personnes, différents organismes. Et là, en fait, il y a plein d'aides qui vont vous permettre de partir. Et en fait, il y a différents types d'aides pour différents types de critères. Hein. Il suffit juste de trouver quelle est l'aide qui vous correspond le plus. Est-ce que c'est aider les gens qui veulent faire des études de sciences? Est-ce que c'est aider les gens qui veulent faire des études en politique? Est-ce que c'est aider des personnes, enfin des femmes? Enfin voilà. Donc c'est à vous de trouver un peu votre résonance. Je ne sais pas trop si ça se dit. Mais...
Non, tout à fait, c'est très clair. Alors, pour clore en fait cette première phase de présentation, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est la curiosité scientifique qui t'a finalement mené à faire des études de chimie, et que pour comparer les deux systèmes anglo-saxons et francophones, l'avantage du système francophone, c'est vraiment la connaissance dure dans la transmission des compétences dures et le système anglo-saxon c'est plutôt beaucoup axé sur le développement des soft skills qui est aujourd'hui vraiment très demandé et qui fait vraiment la différence sur le marché du travail. Et pour terminer également voilà, ne pas se limiter à l'argent. Il y a des aides hein, qui existent, faire des recherches, travailler d'abord votre projet et ensuite vous trouverez toujours le soutien financier qu'il faut et en frappant à des portes, voilà, de ne pas se limiter.
Tout à fait.
À présent, je te propose de rentrer dans la deuxième phase de cette discussion. T'es
oui,
toujours là ?
Je suis là.
Bon bah, let's go. Donc Thomas, avant L'Oréal, quel a été ton parcours ? Donc, quels sont les stages que tu as réalisés et combien d'emplois as-tu occupé ?
Alors en fait, L'Oréal c'était mon premier job, on va dire, en sortie d'école. Donc du coup, avant ça, j'ai fait des stages. Donc un stage en Australie pour faire de la chimie organique. Donc c'est de la synthèse de molécules à visée biomédicale. Donc là, j'étais en Australie, à Melbourne, dans l'équivalent du CNRS australien. Ensuite, à Cambridge, j'ai fait un stage chez Philips, donc l'entreprise de tech, on va dire. Et là, j'ai travaillé dans la formulation de produits blanchissants dentaires. Donc, c'était de la formulation un peu cosmétique dentaire, on va dire. Et ça, ça m'a donné envie de postuler de trouver un travail, en fait, dans tout ce qui était produits finis, formulation. Et donc, du coup, ensuite, j'ai postulé à L'Oréal. En même temps, je voulais aussi aller à Australie, Angleterre. Je voulais continuer sur ma lancée. Et donc, du coup, j'ai postulé à L'Oréal au Japon. Et j'ai été pris en tant que VIE pendant 2 ans.
D'accord. Et du coup, peux-tu nous dire quelles sont les difficultés, les challenges que tu as rencontrés et aussi comment tu t'y es pris en fait pour les surmonter, donc pour décrocher tous ces stages, ces emplois que tu as occupés, notamment à l'étranger également?
Alors, je pense que, je me répète un peu, hein, mais je pense que le plus important, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui te fait envie, enfin, qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait. Alors, en fait, c'est un peu familier à dire, mais c'est vraiment qu'est-ce qui te fait kiffer. Et en fait, je me dis, ben, en fait, voilà, moi, demain, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Enfin, quand je me lève, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en fait, moi, ce qui me faisait kiffer, c'était de voyager, c'était de se lever dans un pays que je connaissais pas, aller dans une boulangerie pour parler une autre langue et commander je sais pas quoi, le week-end, voyager dans un pays et tout. Donc, en fait, voilà, je pense que j'avais trouvé mon point de motivation, on va dire. Et ensuite, du coup, j'ai essayé de tout mettre en œuvre pour que ça se fasse, quoi, en fait. Et tant qu'on a un seul objectif qui est hyper clair, en fait, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre tout le reste, donc tout ce qui est envoyer des emails aux gens, postuler, regarder sur les sites carrières et tout. Et c'est beaucoup plus facile quand on a un but précis, une vraie passion, quelque chose qui nous fait vraiment kiffer, on va dire, que voilà, je postule un peu à gauche à droite parce qu'il faut faire valider mon stage de 6 mois, il faut que je fasse valider je sais pas quoi et tout. Donc voilà, je pense que une des choses qui m'a permis de surmonter, on va dire, toute cette jungle de recherche, de stage et tout, c'était vraiment d'avoir un but précis, le but qui me fait kiffer ma vie, quoi.
C'est très clair. Donc en fait, enfin, ce que je comprends, c'est que faut avoir une vision, faut savoir ce que l'on veut, et finalement, on se laissera jamais abattre parce qu'on est sûr de soi, parce que on a travaillé notre projet, c'est clair dans notre tête. Toutefois, je me dis quand même, il est bien arrivé des moments où il y a eu t'as eu des bâtons dans les roues, il y a bien eu des petites choses qui t'ont ralenti,
Oui,
enfin.
oui. Bah, par exemple, enfin, toutes mes recherches de stage, enfin, j'ai pas été, enfin, pris du premier coup. Par exemple, quand j'ai postulé pour mon stage recherche, en fait, avant d'aller en Australie, j'avais aussi regardé dans d'autres universités dans le monde, donc aux États-Unis, en Angleterre et tout. En fait, c'était parfois hyper compliqué de rentrer dedans parce que. Bah parce qu'en fait, c'est des universités prestigieuses comme ça, ils ne laissent pas l'entrée n'importe qui, faut avoir un super bon dossier et tout, et en plus, ils te payent pas non plus. Parce qu'en fait, ils peuvent se permettre de ne pas payer la personne. Et donc, du coup, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, oh là là, bah, en fait, aucune université me veut et tout, donc j'ai dû, entre guillemets, me rabattre sur le CNRS australien. Mais en fait, au final, avec du recul, je me dis que, mais en fait, ça avait heureusement que j'étais refusé à mes premières, comment on appelle ça, postulations. Non, ça se dit pas, mais bon. À mes premiers dossiers, là, au premier mail que j'ai envoyé, parce qu'en fait, j'ai découvert finalement un stage, mais ouf, quoi. Enfin, le stage, j'étais payé, j'étais dans le CNRS australien, pendant les week-ends et les jours fériés, les vacances, je voyageais dans toute l'Australie et tout. Donc, en fait, oui, alors, je pense que j'ai eu des refus comme tout le monde, comme tous, mais je me dis que parfois, en fait, les refus, c'est pour bonne raison. Et c'est pour ensuite trouver une opportunité qui est encore mieux après.
Tout à fait. Donc là, on arrive à la fin de cette partie. Donc en fait, pour conclure cette phase liée à ta recherche de stage et d'emploi, donc les points clés hein, que tu as partagés, c'est vraiment avoir un projet défini, un projet clair. C'est vraiment ça qui va vous vraiment conforter, qui va vous renforcer pour être au-dessus de tous les challenges, de toutes les difficultés que vous pourriez rencontrer, et également de vraiment trouver ce qui vous voilà, ce qui vous prend aux tripes, comme on dit,
Tout à fait.
enfin ce que vous aimez, enfin quelle est votre passion, et ça aide vraiment à
Tout à
garder le
fait.
cap. L'heure est venue maintenant de parler de son poste d'ingé développement produit chez L'Oréal.
Oui, avec plaisir. Dis-moi, que veux-tu savoir?
En quoi ça consiste?
Alors, en tant qu'ingénieur développement produit à L'Oréal, donc en fait, je travaille dans les laboratoires de recherche et innovation du groupe L'Oréal. Et mon but, c'est de créer dans les laboratoires les produits qui vont être lancés dans les prochaines années. Voilà, ça c'est en gros la mission.
Très intéressant. Et du coup, j'avais une petite question parce que, enfin, t'as raconté que t'avais été à L'Oréal au Japon et aujourd'hui tu travailles à L'Oréal France. Est-ce que t'as vu une différence entre les deux
Ah oui,
entités?
alors enfin, c'est marrant parce qu'en fait, quand j'ai fait donc 2 ans au Japon, puis je suis revenu à L'Oréal en France, en fait, j'avais l'impression de voir deux boîtes différentes en fait. Et en fait, les deux sont super intéressantes. Alors, au Japon, en fait, dans le hub, le centre de recherche est plus petit, hein, on va dire 200, à peu près 200. Et c'est vrai que du coup, ça donne une ambiance assez, enfin, pas familiale, mais assez start-up, assez entrepreneuriale, où en fait, les gens sont assez agiles dans leur poste. et on peut, ouais, on peut un peu toucher à tout, je veux dire. Et en France, en revenant donc au siège, c'est vrai que c'est, on revient au mastodonte, hein, au mastodonte L'Oréal. Donc du coup, on est, on va dire, un peu plus freiné par toute la politique, la diplomatie, les alignements avant de commencer un projet et tout. Mais en contrepartie, on a mais des ressources énormes sur voilà, tout ce que L'Oréal a accumulé depuis ces dernières décennies, et on a accès à, voilà, à tous les experts du groupe, quoi.
C'est très clair. Et du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui démarre, enfin, quelqu'un qui a terminé ses études et qui cherche un emploi et qui se demande est-ce que finalement il devrait commencer par un grand groupe ou plutôt une start-up ou une entreprise beaucoup plus petite? Qu'est-ce que tu dirais du coup au regard de ce que tu viens de partager? Au regard de ce que tu viens de nous partager?
Alors, je dirais qu'il n'y a pas de bonne réponse, en fait. Et en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est il faut y aller avec ses tripes. En fait, à un moment donné, en fait, tu vas sortir de ton école, et à cet instant-là, quand tu es diplômé, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer, en fait? Est-ce que tu as envie de partir dans un grand groupe parce que, bah, je ne sais pas, les opportunités sont hyper intéressantes, ou bien la popularité du groupe, là, le nom est intéressant pour toi? Ou est-ce que, voilà, tu te sens plus, tu veux monter ton petit projet, enfin, ou être dans une échelle plus petite pour avoir, on va dire, un peu plus d'impact, je dirais, peut-être, je sais pas si c'est le bon mot, hein, mais un peu plus, voilà, d'impact autour de toi. C'est à toi de voir. Et de toute façon, moi, je me dis que la vie est longue, et c'est pas parce que tu commences en start-up que tu vas jamais aller dans un grand groupe, ou vice-versa, quoi. Donc, moi, je dirais, vas-y avec ton gut feeling à un moment donné. Et de toute façon, si ça te plaît pas, tu peux changer au bout de, bah, un an, ou bien 5 ans, 10 ans. C'est vraiment toi qui construis ta carrière, et il n'y a pas de bon chemin, je dirais.
Très bien, très bien, très clair. Bah écoute, hein, je conclurai également cette phase en retenant du coup ce que tu viens de dire, hein, c'est que il y a rien qui est joué à l'avance. Faut pas se figer. Bah surtout qu'aujourd'hui on est appelé à avoir plusieurs carrières dans une vie, donc vraiment ne pas se mettre des barrières, en fait, au final. Hein, donc, Non, mais super. J'avais une autre question pour toi, justement, pour clore ce chapitre sur ton métier. Tu sais qu'actuellement, la chimie souffre d'une image pas très reluisante, notamment du fait de son impact sur l'environnement. Que dirais-tu aux personnes passionnées de chimie, mais qui hésitent à se lancer?
Je dirais qu'en fait, avec l'essor de tout ce qui est technologie, ou même nouvelles sciences, hein, comme je sais pas, la science du médical, enfin voilà, les progrès technologiques, je dirais que l'avenir de la chimie n'aura jamais été aussi excitante que maintenant. C'est qu'en fait, on va passer d'une chimie, la chimie lourde, la pétrochimie, voilà, tout ça, vers des chimies beaucoup plus de spécialité, où en fait, on va vraiment pouvoir créer avec la chimie, hein, des produits, ou bien voilà, des grandes découvertes qui vont vraiment changer le monde. Donc aussi bien dans tout ce qui est réchauffement climatique, mais aussi tout ce qui est biomédical, progrès médicaux. Donc voilà, je pense que la chimie a vraiment son rôle dans le monde de demain, et on a besoin de gens hyper motivés, hyper créatifs, qui kiffent la chimie, on va dire, pour participer à ce changement et à cet impact dans le monde de demain, grâce à la chimie en partie.
Tout à fait. En plus, étant chimiste moi-même, je suis totalement en phase avec toi, et j'aimerais juste rajouter qu'effectivement, l'alliance chimie et développement durable est aujourd'hui juste cruciale, hein, pour trouver des solutions durables qui vont également préserver notre chère planète. Donc Thomas, nous arrivons au terme de nos discussions, mais avant de nous quitter, j'ai une petite question
là,
pour toi. Ça s'appelle la question
D'accord.
Joker.
Si ça marche pas, je peux buzzer. Non, je plaisante pas. Oui,
T'es
dis-moi.
toujours avec moi? Alors, c'est parti. Alors, Thomas, je te poserai une question et du coup, t'as le choix. Donc, t'auras œuvre d'art, personnage, mantra ou citation. T'as le choix entre ces trois rubriques.
Je vais prendre mantra et citation.
Let's go! Alors.
J'ai peur.
Non, faut pas. Non, mais du coup, pourrais-tu nous dire quel est le mantra, la citation qui t'inspire au quotidien et pourquoi?
Waouh, ok. Alors, il y a plusieurs citations, mais je pense qu'une des citations qui m'a marqué, en fait, quand j'étais justement en Angleterre et que je cherchais, que j'allais finir mes études et que je cherchais un nouveau job. Alors, c'est une citation de Anita Roddick, qui est la fondatrice de Body Shop, donc la marque de cosmétiques orientée naturelle. Et en fait, une des citations qui est célèbre de sa part, c'est alors en anglais, Be daring, be first et be different. Et donc, du coup, sois audacieux, sois le premier dans tout ce que tu fais et sois différent. Et en fait, je trouvais que ça, c'était hyper intéressant et hyper impactant. Et je me suis dit que voilà, quoi que je fasse dans la vie, que ce soit dans mes études, que ce soit dans ma recherche d'emploi, que ce soit dans mon emploi, ben, je veux être audacieux, je veux être le premier à faire quelque chose et je veux être différent. Même si ça veut dire que bah ben, voilà, les gens ils te regardent un peu bizarrement au début et tout, mais c'est hyper gratifiant quand tu réussis à faire un truc, que t'es le premier à le faire et que tu le fais bien. Et ben ça vaut tout. Tous les échecs, les refus de stage ou les refus d'emploi, du monde.
Merci Thomas, franchement, là tu me fais découvrir une citation très forte de sens. Hein. Enfin, ouais, elle est vraiment très puissante. Soit audacieux, soit le premier, soit différent. C'est vraiment quelque chose de très fort. Merci
Ceci.
en tout cas. Donc j'ai terminé notre discussion en reprenant sommairement quelques points que tu as partagés et qui sont très utiles à mon sens quand on recherche un emploi ou tout simplement même pour la gestion de notre carrière. Donc en fait, tu as parlé vraiment d'avoir un projet bien défini. Donc c'est super important parce que c'est ça en fait qui nous permet d'être droit dans nos bottes et d'être fort vis-à-vis comment dirais-je? Des obstacles, hein, des challenges qui vont arriver dans notre vie parce que ça, c'est inévitable. Tu as parlé également de quelque part vivre ses rêves en fait, de pas se limiter forcément à la question financière parce que de toutes les façons, il y a toujours des solutions, il y a plein d'aides qui existent, faut juste chercher et on arrive toujours à s'en sortir. Là, on n'est pas en train de dire que la question financière n'est pas un sujet. Si, elle est très importante, mais simplement, il y a des solutions, ça existe, il faut chercher. Et également, une fois de plus, vraiment cette citation qui est vraiment très forte et très puissante à garder en tête. En tout cas, moi, je la garderai en tête pour pour la suite et qui pour moi vraiment donne toute la force et l'énergie pour atteindre ses objectifs. Merci beaucoup Thomas pour ta
Bah, pas de souci,
confiance.
avec un grand plaisir, Vanessa. C'était super bien de pouvoir échanger avec toi.
Je te dis à
Bye bye,
très
salut.
bientôt. Salut. Alors, si vous avez trouvé cet épisode utile et intéressant, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne Boost ta recherche d'emploi podcast. Pour toute question, commentaire, n'hésitez pas à me contacter et à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook et plus récemment LinkedIn. Je serai très ravie d'échanger avec vous. Portez-vous bien et à très vite!